En général, quand dans un concert, dans une soirée, il y a un micro même droit, voilà. Il y a soit un chauffeur de salle, soit un présentateur qui vient puis qui dit « Vous allez bien ?» Puis tout le monde fait « Mais d'un seul homme, alors. » Voilà. Alors, je voulais vous demander ce matin si vous alliez bien. Mais pas un bien « Ouais !» Non, un vrai bien. Un vrai bien. Est-ce que vous allez vraiment bien? Ça serait un peu spécial ce matin, mon message. J'hésitais un petit peu à faire comme ça, mais après tout, une fois, n'est pas coutume. J'aimerais qu'on laisse parler la parole de Dieu ce matin. Et mon idée, c'est vraiment, enfin mon idée, c'est pas la mienne, mais c'est vraiment que chacun puisse repartir avec un verset pour lui, pour sa situation. Parce qu'on va pas forcément bien, parce qu'on peut avoir des soucis, parce qu'on peut être pas bien du tout, physiquement, moralement. On a le droit. C'est notre vie. Mais ce matin, je pense qu'il y aura pour chacun un verset. Alors, ils vont tous s'afficher. Pas tous ensemble, hein, avec le, parce qu'il y en a un paquet. Mais je ne vais pas faire beaucoup de commentaires dessus. Et puis, Philippe nous a parlé ce matin de David, du grand roi David, et puis de la suite de David. Et la suite de David, c'est le Christ qui arrive. C'est l'arrivée du Christ. Et cette lumière qui est là, la troisième, elle parle de cette arrivée. Et elle parle de la joie de cette arrivée. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, c'est cette joie de l'arrivée de Noël. On va lire un premier texte, ce texte vous le connaissez, c'est un texte de Noël. Vous l'avez entendu le soir de la fête de Noël, ce texte. Il est très connu, on va le lire ensemble. L'ange, on est donc dans, on va mettre un petit peu la scène. C'est dans la campagne, il y a des bergers qui sont là, qui veillent pour leurs troupeaux, hein, ils dorment avec les troupeaux. Voilà. Et tout d'un coup, il y a un raffut dans le ciel. Il y a plein de bruit, il y a de la lumière, tout. Et il y a des anges qui interviennent. Et puis, imaginez un petit peu dans quel état il devait être. C'est le tonnerre, c'est quoi? C'est un bruit, c'est quoi? Ça vient d'où, ça? Et puis, il y a l'ange qui parle, un ange de Dieu qui parle, qui leur dit, Luc 2,10, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître, vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Et tout à coup, il y eut avec l'ange une foule nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi ceux qui l'aiment. » Cette annonce qui retentit dans le ciel, dans la nuit de Noël, on la connaît, vous l'avez déjà entendue. Vous l'avez déjà lu. Mais est-ce que vous êtes une fois arrêté sur les deux ou trois mots importants qu'il y a dans ce texte? Des mots forts, des idées qui sont contenues dedans. J'en souligne juste quelques-uns. D'abord, c'est un appel clair de Dieu aux hommes alors que quelque chose d'impressionnant et de vital se passe. N'ayez pas peur, ne craignez pas. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Ça, c'est la première annonce qui est faite de Dieu. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, mais n'ayez pas peur. Pas de raison d'avoir peur. C'est-à-dire, passez au-delà de votre surprise, de votre émotion, et écoutez ce que je vais vous annoncer. Écoutez bien. Je vous annonce une bonne nouvelle. Dieu va dire que c'est une bonne nouvelle. Et puis que cette nouvelle va réjouir le peuple. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous alliez bien. Cette nouvelle va réjouir le peuple. Le peuple, les personnes qui sont là, qui vont être présentes et confrontées à cette nouvelle. Un sauveur est arrivé. Un sauveur est arrivé. Il faut bien dire que tout ce peuple attendait quelqu'un qui allait enfin les délivrer de l'emprise des Romains. Ils étaient un petit peu occupés, comme la France a été occupée par les Allemands pendant un temps. C'était la même chose. Et donc, ils voulaient quelqu'un qui extirpe cet occupant. C'était raté, hein. Christ n'est pas venu pour ça. Et enfin, un concert d'anges. On sait ce que c'est qu'un concert de klaxon. Un concert d'anges, ça doit être bien plus beau. Vous imaginez un concert d'anges. Quand à 3 ou 4, on chante Glory, Alléluia, des fois on se dit, il manque un petit peu de... de puissance. Venez à la chorale, qu'on puisse faire un concert d'anges. Ce n'est pas des anges à la chorale, mais venez qu'on puisse faire un concert une fois comme il faut. Venez aussi. Ce concert d'anges qui invoque la paix sur la terre, ce concert d'anges qui vient, qui crie du haut du ciel, paix sur la terre parmi les hommes que Dieu aime. Il y a une ancienne version qui dit parmi les hommes de bonne volonté. C'est important ce petit passage, de bonne volonté. Le message fort de ce texte, au-delà de l'annonce du Christ, c'est que cette nouvelle est réjouissante, qu'elle nous remplit de joie, qu'elle doit nous remplir de joie. Le troisième dimanche de l'Avent reprend ce thème de la joie aussi, ce thème de l'annonce de la venue du Christ en la succession de David, mais ce thème de la joie. Est-ce que la bonne nouvelle de Noël vous apporte de la joie? Apporte de la joie dans votre cœur? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on se rend compte de ce que cette venue du Christ, de ce petit enfant Jésus qu'on voit dans la crèche? Vous savez, dans la crèche, c'est le plus petit, hein? Des fois, elle est, dans les petites crèches, il est tellement petit qu'on la renverse, on ne sait plus où on l'a mis. Tellement il est petit, on le cherche. On en a perdu un une fois chez nous. C'est embêtant, hein? Le centre de la crèche, mais tout petit. Mais c'était tellement petit et c'est tellement une grande nouvelle. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions ensemble nous poser cette question. Est-ce que l'annonce de la venue du Christ, de l'anniversaire de la venue du Christ, dans en gros une semaine, 10 jours, est-ce que ça nous remplit de joie? Est-ce que le fait de savoir qu'il est venu, qu'il a vécu, qu'il est mort pour nous, nous remplit, nous transporte de joie? Est-ce que cette joie est communicative? Est-ce que cette joie, on peut la transmettre? Est-ce qu'elle est, comment dire, elle est source de joie pour les autres? Alors je vous invite à réfléchir ce matin à la joie en cherchant ce que la Bible nous dit de la joie. C'est incroyable, dans la Bible, on croirait que c'est un livre sur la joie. Vous prenez par exemple l'épître de Paul aux Philippiens, c'est juste incroyable. Je vous assure, hein, c'est juste incroyable. Il y a des milliers de fois dans la Bible, je dis bien des milliers de fois, dans les 66 livres de la Bible, des milliers de fois, la joie, réjouissez-vous, soyez remplis de joie, soyez remplis d'allégresse, chantez votre joie, criez avec joie, c'est juste incroyable. Rien que le mot joie tout seul, on l'a 280 fois dans la Bible. Le verbe réjouir, on l'a plus de 300 fois dans la Bible, se réjouir. Et toutes les fois, c'est ciblé au même endroit. C'est se réjouir en direction du Christ ou en direction de Dieu. Alors ce matin, vraiment, j'aimerais que chaque personne ne puisse repartir sans avoir un verset pour lui dans sa situation. Le psaume 51, 12 nous dit « Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. » Ça veut dire peut-être qu'on pouvait l'avoir perdu. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'ainsi un esprit de bonne volonté me soutienne. » Alors la joie, dans la Bible, on la trouve à beaucoup d'endroits. D'abord, la première intéressée dans notre histoire de la joie, c'était Marie. Et Luc 1, 46 nous dit « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Et ça, c'est le message de Noël. Le Christ qui a baissé les yeux, qui s'est abaissé jusque vers nous et pour nous remplir de joie. Ensuite, il y a ce texte de Matthieu que vous connaissez, ce texte des Béatitudes. Les 10 versets des Béatitudes, Matthieu 5, je ne les ai pas notés ici, mais les 10 versets des Béatitudes, Matthieu 5, chacun des 10 versets renferme le mot heureux, heureux, heureux ceux qui, et vous les trouverez au fur et à mesure de notre texte. Un appel clair et pressant à nous laisser remplir de la joie du Christ. Heureux, 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 qui n'a pas envie d'être heureux ce matin? Qui n'a pas envie d'être heureux? C'est à ce à quoi aspire chacun, chaque individu, le bonheur, la joie. Et puis il y a beaucoup d'autres versets qui nous mettent dans des situations de joie. En voici quelques-uns en vrac. Psaume 32, 11. Merci Clément, ça ne va pas être facile pour toi de suivre, merci. Psaume 32, 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, dans la joie. Poussez des cris de joie. Qui? Vous tous qui êtes droits de cœur. Une invitation à suivre Dieu sur un vrai chemin, sur le chemin de la justice. Invitation à un comportement spécifique pour les chrétiens d'être des hommes et des femmes droites. On dirait actuellement debout dans ses bottes. Et vous voyez ce que ça veut dire? Bien dans ses chaussures, bien sur son chemin, bien en suivant Dieu, droit, simplement. Psaume 68, 4. Chantez à Dieu, célébrez son nom, c'est ce qu'on vient de faire. Frayez un chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Ce n'est pas dans son petit coin non plus, c'est réjouissez-vous devant Dieu. Faites savoir à Dieu votre joie, parce qu'il arrive. Le Christ, le Sauveur, qui est annoncé à Noël. Invitation à la louange, invitation au partage avec Dieu. Psaume 97, verset 12. Réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. On parle du Saint-Père. On parle du Saint-Esprit. C'est un Dieu saint. Réjouissons-nous en lui. Invitation à reconnaître sa sainteté. Le fait qu'il est Dieu et que nous sommes hommes et femmes. Ésaïe 49, verset 3. Ça va beaucoup plus loin que nous, hein. Cieux, réjouissez-vous. Terre, tout entière, soit dans l'allégresse. Montagne, éclatez de joie. Est-ce qu'on s'attend à ce que le Jura éclate de joie? Je ne sais pas comment ça va faire, hein. Ça va nous surprendre, mais il dit, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. C'est une grande nouvelle. Peut-être le Jura devrait éclater de joie, peut-être le Jura n'a pas assez de foi pour éclater de joie, mais nous. Car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. L'Éternel connaît tout de la terre, de tout ce qui forme la terre, de tout ce qui englobe la terre, et il prend soin de chacun, il prend soin aussi des malheureux. Invitation à reconnaître sa présence et son action en nous et parmi nous. Ésaïe 65, le verset 18, « Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. » À cause de ce que je vais créer. « Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Dieu crée un peuple pour la joie. Si nous reconnaissons Dieu comme notre Père, il nous a créés pour la joie. Il ne nous a pas créés pour faire une tête. Vous voyez comment ? Un petit peu longue, comme on dirait, mais pour un esprit de joie, que la joie habite en nous. Nous soyons rayonnants de cette joie. Luc 10, 20, réjouissez-vous de quoi ? De ce que vos noms sont écrits dans les cieux. De ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Tous ces sujets de joie sont compris dans cette annonce. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous une grande joie. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Et c'est grâce à ça que nos noms sont écrits dans les cieux. Si nous avons cru à cette parole et si nous nous réjouissons en cette parole. Matthieu 5, 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Rien ici sur la terre n'est une récompense suffisamment grande. Dieu nous donne cette récompense dans les cieux, cette vie éternelle qu'il promet. Et puis, dans son amour, nous l'avons vu pour toute la terre, dans sa miséricorde, Romains 15, 10, il est encore dit, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Ça veut dire que notre joie et la joie de Dieu devraient aller bien au-delà du groupe des chrétiens. Des enfants de Dieu, mais la terre entière devrait se réjouir. C'est le plan de Dieu que toute la terre se réjouisse de ce qu'il a envoyé son Fils à Noël, le Christ sur la croix. Voilà pour les textes, quelques textes qui parlent de la joie dans la Bible. Mais quelle est la source de cette joie? D'où vient cette joie? La source de notre joie est en Dieu. Dans le Dieu trois fois saint, vous savez ce Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et je vous donnerai juste un verset pour chacune de ces trois parties de Dieu. D'abord, la joie est en Dieu. Ecclésias 5, 19, si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger et d'en prendre part et de se réjouir au milieu de son travail, cela est un don de Dieu. Dieu donne à l'homme ce dont il a besoin, mais il le lui donne pour qu'il se réjouisse en Dieu, de ce qu'il a reçu de Dieu. La source de la joie est en Christ, c'est l'annonce que nous avons lue. Je vous annonce une bonne nouvelle, le Christ est né, Jésus est né. C'est une source de joie pour nous. Et puis le Saint-Esprit, Jean 16, 22, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie, nul ne vous ravira votre joie. Cette joie qui est à l'intérieur de nous, personne ne peut nous la prendre. Elle est certaine, elle est fixe, elle est complète. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est le plan de Dieu pour nous, une joie parfaite, et l'Esprit de Dieu nous amène vers cette joie. Ça reste un peu de la théorie peut-être, alors un peu plus pratique. Quelle est la joie du chrétien? Comment s'exprime la joie du chrétien? Notre joie à nous. Il y a dans la Bible 27 fois un ordre de se réjouir. 27 fois. Réjouissez-vous. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas une punition si vous ne vous réjouissez pas. Hein. Attention, ce n'est pas un chantage non plus. Ce n'est pas si vous ne vous réjouissez pas, il n'y aura pas, etc. Non, mais réjouissez-vous. C'est plus qu'un conseil, c'est une façon de nous dire, mais vivez cette joie. Réjouissez-vous. Philippiens 4.4, énormément dans l'épître aux Philippiens. Si vous voulez trouver beaucoup de passages sur la joie, lisez l'épître de Paul aux Philippiens. C'est juste incroyable. Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et le verset n'est pas complet. Je le répète, réjouissez-vous. Deux fois dans le même verset, réjouissez-vous. Ce n'est pas si vous voulez pour vous réjouir. Non, c'est réjouissez-vous. Il n'y a pas d'autre alternative ici. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. C'est Paul qui parle aux chrétiens de Philippe. On voit donc que se réjouir, c'est un état d'esprit. Le chrétien n'a pas ou ne devrait pas avoir à se forcer pour être dans la joie. C'est son état normal, ni plus ni moins. Il a conscience qu'il a tellement reçu de Dieu qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de la joie, que celui du bien-être, de la paix, de la sérénité. Et quelle que soit notre situation, de Corinthiens 13, verset 11, « Frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. » Tout ça, c'est des conseils qui nous aident à vivre cette joie du Christ. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Relisez ce verset. « Soyez dans la joie, perfectionnez-vous. » Consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Ça paraît tout simple. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous et vous apportera sa joie. La joie est un mode de vie. La joie est notre mode de vie. Le livre de Néhémie, vous vous souvenez ce livre de Néhémie qu'on étudie à l'étude biblique? Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel est votre force. Ce n'est pas une force comme ça qui se promène quelque part, Dieu quelque part perdu dans les cieux. Non, la joie de l'Éternel, c'est votre force. Ça veut dire que si on n'est pas joyeux, si on n'a pas cette joie en nous, est-ce qu'on est fort ou est-ce qu'on est faible? Réfléchissons à notre situation personnelle. La joie de l'Éternel sera votre force. Mais la joie est aussi liée, associée à nos devoirs de croyants. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? Comment est-ce qu'elle s'exprime, cette joie, dans notre devoir de croyant? Alors, on va trouver la joie dans la justice. Dieu nous demande d'être juste, d'être droit, on l'a lu. Psaume 32, 11, juste, c'est à nous qu'il s'adresse, Dieu, ici. Juste, il nous a justifiés, il nous a rendus justes aux yeux du Père. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Le simple fait d'avoir été rendu juste par Dieu nous fait pousser des cris de joie. Vous êtes dans la joie? Est-ce que vous avez été justifié par Dieu? Matthieu 5, dans les Béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Est-ce qu'on imagine la joie d'être rassasié de justice? Je ne sais pas si ça peut arriver. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'injustice. Plus du tout si on est rassasié de justice. Il n'y a plus rien qui nous fait dire « c'est injuste ». On peut dire dans notre monde, il n'y a plutôt rien qui nous fait dire « c'est juste ». Mais la joie du Christ peut nous amener, peut amener notre monde à être rassasié de justice. Un devoir pour nous, la joie dans la justice. Et puis la joie dans la miséricorde, dans l'amour, dans la compassion. C'est un mot un peu compliqué, la miséricorde. On met beaucoup de choses dedans, mais c'est partager, c'est être ensemble, c'est vivre ensemble les soucis et les choses agréables des uns et des autres. Romains 12, 8, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Avec joie. Apportons la joie dans l'amour et dans l'entraide et dans le partage et dans la consolation. Apportons cette étincelle de joie. Pas la nôtre, non, celle qui vient de Dieu. Celle qui nous réjouit dans cette annonce qu'on a lue dans Matthieu tout à l'heure. Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. La joie de Dieu peut tout à fait se transmettre auprès de personnes qui souffrent, qui pleurent, qui sont dans le deuil. J'étais très interpellé hier par ce drame qui s'est noué aux États-Unis, vous avez entendu. Comme je me disais, mais comment parler de la joie à des gens comme ça? C'est terrible. Mais rien que le fait de leur parler et de, peut-être de les serrer dans les bras, c'est un geste d'amour et de joie pour eux. Soyons-en certains, et c'est terrible, je ne sais pas du tout quelle serait ma réaction. Et je pense qu'on ne peut pas dire, chacun ici, quelle serait notre réaction. On est terrifié par ce qui s'est passé. N'empêche que Dieu veut nous faire passer au-delà aussi. Et dans cette compassion, il dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, non pas comme un devoir qui nous pèse, mais parce que Dieu met dans notre cœur cette envie de la miséricorde, de la compassion, de l'amour et du partage, simplement. Une autre joie qui nous surprend peut-être dans notre monde, c'est la joie de la libéralité. La libéralité, c'est donner, partager, donner son argent, donner du temps, donner de l'aide, donner à manger. Et là, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous invitent à ça. Acte 20, 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Pensons-y pendant cette période de Noël. Noël, c'est la période des cadeaux, mais est-ce qu'on est sûr que on a tous reçu un cadeau? On a reçu le cadeau du Christ à Noël. Ça, c'est ce dont on parlait. Mais plus terre à terre, pensons aux personnes qui peut-être n'ont pas de cadeau à Noël. Simplement le cadeau d'être avec quelqu'un pour fêter Noël. Ou simplement que quelqu'un leur dise « Bon Noël !» Ou simplement que quelqu'un leur dise « Tiens, je pense à toi. » Pensons ceci pour Noël aussi. De Corinthiens 2, 2, « Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, et là on parle de personnes qui étaient vraiment dans des situations difficiles, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. » Ça veut dire des personnes qui étaient dans la peine, dans la souffrance, dans la pauvreté, on nous dit. Leur joie débordante à ces personnes-là et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, dit Paul, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Donner de la joie, donner du bonheur, donner simplement. C'est-à-dire faire le pas d'aller apporter vers l'autre comme ces anges ont apporté la bonne nouvelle, simplement, et l'ont apporté dans la joie. Après avoir vu ces devoirs du croyant, encore quelques points pour dire des versets pour les caractéristiques de notre joie. Comment elle est notre joie? Notre joie, elle est profonde. Elle n'est pas superficielle, c'est pour ça que le « ouais » non, ça, c'est une voix des lèvres, ça. Mais ce n'était pas une joie du cœur. La joie, elle est profonde. Jean 15, 11, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie, dit Jean, qui lui l'avait reçue de Dieu, ma joie soit avec vous, et que votre joie soit parfaite, profonde, totale, sans doute. La joie aussi est durable, stable, ce n'est pas quelque chose d'un instant. Frères, Philippiens 3, 1, réjouissez-vous dans le Seigneur, et je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Cela est salutaire pour vous. Votre joie, c'est quelque chose de salutaire. Ce n'est pas juste pour maintenant. Vous allez emporter votre joie dans l'éternité. Ça, c'est quelque chose de fabuleux. Vous n'allez pas la perdre, vous allez l'emporter. On ne sait pas comment on sera vraiment dans l'éternité. Mais avec ce verset, on peut dire qu'on sera joyeux, parce qu'on sera dans la présence du Seigneur. Notre joie est désintéressée. On ne va pas faire un grand sourire commercial, simplement, pour montrer notre joie. Ça ne passerait pas, ça ne serait pas de la joie, d'ailleurs. Pas du tout. Notre joie est désintéressée. Et dans Matthieu, il y a ces mots merveilleux, Matthieu 5, versets 3 et 5. « Heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont simples, qui sont capables de se réjouir simplement, parce qu'on leur dit « réjouissez-vous ».« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » »« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Débonnaire, c'est être gentil, être simplement bon, être agréable. Accepter les choses telles qu'elles viennent, sans se poser des questions qui ne feraient que nous troubler. Matthieu 5, 12, qui est la fin de ce texte, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande, mais dans les cieux. » C'est-à-dire que vous n'avez rien à gagner sur la terre, simplement à vivre comme ça. Mais vous n'avez rien, ça ne va rien vous rapporter à vous spécialement. Mais qu'est-ce que ça va rapporter aux autres? Qu'est-ce que ça va apporter aux autres? Mais pour vous, c'est tout à fait désintéressé. Simplement, peut-être aurez-vous plus d'amis, de vrais amis, avec qui vous pourrez partager. Réjouissez-vous parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Cette joie est pure. 1 Timothée 3, 9, concernant le mystère de la foi, dans une conscience pure. Nous avons donc conscience que cette joie est pure. Hébreux 12, 10, 22, approchons-nous avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le Christ nous purifie. C'est lui qui nous purifie. Nous ne pouvons pas nous-mêmes. C'est lui qui nous purifie et qui met en nous cette joie. Et puis, dans les béatitudes toujours, heureux ceux qui ont le cœur pur, Matthieu 5, 8, car ils verront Dieu. Heureux, est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui est-ce qui a envie de voir Dieu? Le cœur, alors, c'est pas si vous avez, attention, c'est pas marqué, si vous avez le cœur pur, vous verrez Dieu, hein. Il n'y a pas de condition, mais c'est marqué « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Mais bien heureux êtes-vous si vous avez le cœur pur, parce que vous verrez Dieu. Simplement, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de condition. On nous dit « Qu'est-ce que vous avez à gagner à être heureux ?» Oh là là, c'est juste incroyable. Vous verrez Dieu. Et lisez Matthieu 5, le début. C'est juste incroyable, ces mots de Matthieu 5. La joie est paisible, elle apporte la paix. Elle diffuse la paix, elle rayonne autour de nous. Matthieu 5, 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira toutes sortes de mal à cause de moi. » Et tous les témoignages qu'on a, vous en avez entendu, lu, on en a parlé lors du dimanche de l'Église persécutée, le témoignage des gens qui vivent des choses difficiles parce que justement leur foi est empêchée, est interdite, leur foi leur fait risquer leur vie, ces gens-là nous disent, mais nous sommes en paix. Dieu nous donne sa paix. Et dans le texte qu'on a médité ce jour-là, vous vous souvenez, le Christ entre chez les premiers disciples qui sont enfermés ensemble parce qu'ils avaient peur des Juifs, et qu'est-ce qu'il leur dit? Quelle est la phrase qu'il leur dit? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La foi est paisible, la joie est paisible. La tromperie, psaume 12, 20, la tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Soyons des ouvriers de paix. Apportons la joie. Dieu veut aussi que notre joie soit totale, parfaite. Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, on l'a lu, que votre joie soit parfaite. » Jacques 2, 1, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Ça veut dire que nos épreuves, et chacun sait les épreuves qu'il a, elles sont douloureuses et difficiles souvent, nos épreuves personnelles à nous. Mais Dieu nous dit, regardez comme un sujet de joie. C'est-à-dire que allez plus loin que votre épreuve, mais cherchez dans cette épreuve ce que Dieu peut bien vous dire. Regardez comme un sujet de joie complète, de joie complète. Parce qu'il n'y a pas un petit peu de joie. De joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Ce n'est pas toujours facile, hein ? Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est pourtant ce que Dieu nous propose et à ce à quoi Dieu nous invite dans cette annonce de ce bouleversement de l'avenue du Christ. Alors la joie se manifeste pour nous dans les différents moments de notre vie, dans notre vie de prière, notre louange. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied, convient aux hommes droits. On a parlé de droiture déjà. Donc, Dieu nous demande d'être droit, d'être juste et de le louer. C'est ce qu'on a fait ce matin, entre autres, mais il n'y a pas que ce matin. Et on peut le louer partout, tout le temps, le matin, le soir, la nuit, chez nous, dans la voiture, au boulot, n'importe où. Dieu nous propose de le louer. Dans notre prière, dans notre foi, c'est-à-dire dans la vie de l'Évangile tous les jours, Philippiens 1, 25, « Je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Dieu non seulement est venu, mais promet d'être par son Esprit avec nous pour nous donner cette joie et pour nous la garder jour après jour. Romains 12, verset 12, « Réjouissez-vous. » Réjouissez-vous comment ? En espérance, c'est-à-dire dans l'espérance de tout ce que je vous ai promis et de tout ce qui se réalise. J'ai promis que je viendrai, je suis venu. J'ai promis que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. J'ai promis de vous donner ce qu'il vous fallait jour après jour, faites-moi confiance, je le ferai. Et ainsi de suite. Dieu demande aussi aux chrétiens de manifester sa joie dans l'épreuve, même si ça peut paraître anachronique, tout à fait anachronique, mais c'est ce qu'il nous demande et c'est ce qu'il nous promet. Et là, on a trois versets qui sont importants. Romains 12, 13, « Soyez patients, patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Ce sont des conseils que donne Dieu. Vous êtes dans une période difficile, elle dure peut-être. Soyez patients, persévérez dans la prière. Matthieu 5, 4, heureux, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et c'est la bénédiction de Dieu, c'est la consolation de Dieu, c'est la joie de Dieu. Je vous consolerai de vos afflictions. Et puis plus loin encore, dans le plan de Dieu, Romains 12, bénissez ceux qui vous persécutent. Ça, c'est quelque chose de dur. Bénissez et ne maudissez pas. Et si on veut réfléchir à ce verset en une seconde, à quoi ça servirait de maudire ? À quoi ça nous avancerait de maudire ? Mais remettons-les à Dieu. C'est Dieu qui sait. Bénissez et ne maudissez pas. Et puis, il y a notre service à nous. Qu'est-ce que nous faisons, nous, dans notre vie ? Psaume 2, 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. J'ai souligné deux complément avec crainte et avec tremblement. Réjouissez-vous avec tremblement. C'est difficile de se réjouir avec tremblement. Je ne sais pas comment ça fait, mais c'est dans l'idée de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas se réjouir, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, il n'y a pas de problème, non. Mais c'est se remettre devant Dieu et dire, Seigneur, je me réjouis en toi parce que je sais que toi, tu auras toutes les solutions. Pour moi et pour mes amis et pour ceux pour qui je prie. Servez-le avec crainte, servez-le avec crainte. Jusqu'où va notre crainte de Dieu dans notre service ? Est-ce que je vais aller dans mon service jusqu'à risquer ma vie ? Pour témoigner ? Jusqu'où je vais aller? C'est cette question qui nous est posée là. Servez l'Éternel avec crainte. Craignons Dieu. Craignons Dieu pour rester près de lui. Et puis, dans l'accueil, on a parlé de l'hospitalité, grand défi des chrétiens, grand défi de notre siècle, où plus on communique et moins on communique. J'ai entendu cette semaine qu'il y a un réseau social qui a été créé dans une ville pour que les gens dans les immeubles puissent prendre contact entre eux. Ça veut dire qu'on reçoit un email, on est super content parce que la personne qui nous met l'email, c'est celui du premier. Qui nous dit, ouais, c'est super, il y a une dégustation gratuite de foie gras, mais pas à l'autre bout de la ville, non, chez le commerçant du quartier. C'est comme ça qu'il l'expliquait. C'est super, ça va faire du lien entre les gens. Est-ce que pour refaire du lien entre celui du premier et celui du deuxième, il faut qu'il y ait un site internet? Peut-être, hein, j'ai rien contre le site internet, mais peut-être il y a là une question à se poser. Est-ce que c'est pas plus simple de descendre les 12 marches et de dire bonjour avec un sourire? Simplement, je ne vais pas plus loin, mais ce truc, il est en train d'être mis en marche, il a été mis en place dans une ville et il fonctionne, paraît-il, super bien. Manque de pause pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Non, mais c'est un petit peu la tête à l'envers. Ça m'a vraiment interpellé. Donc, le grand défi de notre siècle, l'accueil, l'aide, voir ce qui est autour de nous, ouvrir les yeux. Romains 12, 13, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Matthieu 25, 10, et c'est là que le Christ nous interpelle. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le Christ se met à la place. Vous avez vu qu'il va jusque dans celui qui est le plus bas. Il se met à la place. Et toutes les fois que quelque chose est fait pour ce plus petit, c'est au Christ qu'on le fait. Servez l'Éternel avec joie. Beaucoup de citations, beaucoup de versets. Si vous les voulez, je vous les donne à la sortie. J'en ai quelques-uns, j'en ai imprimé quelques-uns. Ou pour le moment, je peux vous les faire passer par Internet, excusez-moi, aussi. Ça sert aussi. Autrement, je voulais que vous photocopiez, il n'y a pas de souci. J'aimerais terminer avec quelques citations de personnes connues qui m'ont paru intéressantes et que je vais mettre en relation trois citations, une de Dostoïevski, une de Saint-Exupéry et une de Saint-Augustin, et que je mettrai en relation avec trois fois des versets de la Bible. Dostoïevski nous dit « L'homme est malheureux car il ne sait simplement pas qu'il peut être heureux. » Est-ce que le message de Noël, « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle », est-ce que il ne nous permet pas d'être heureux? Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va saler? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Saint-Exupéry, « Apparais-moi, Seigneur, car tout est dur lorsqu'on perd le goût de Dieu. » On a parlé de ce goût, lorsqu'on perd le goût de Dieu. Et Matthieu 5 nous dit en suivant, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'éclaire pas une bougie pour la mettre sous un seau, mais on la met au milieu de la pièce. Et elle éclaire la pièce et les personnes qui sont autour. » Et puis, saint Augustin nous dit la chose suivante, et ça m'a beaucoup frappé, « Il manque quelque chose à mon bonheur, celui des autres. » Il manque quelque chose à mon bonheur, celui des autres. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et je termine avec ce verset de Philippiens 2, 2. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Je vous invite à un petit temps de méditation, de silence. Et si un ou deux veulent prier, vraiment qu'ils le fassent vraiment librement à haute voix. Seigneur, aux personnes réunies cette nuit-là, tu as dit ne craignez pas, n'ayez pas peur. Et puis tu as dit que tu leur annonçais une bonne nouvelle qui était pour tout le peuple un grand sujet de joie. Nous voulons, Père, te remercier pour cette joie que tu as manifestée dans la venue de ton Fils, pour cette joie que tu nous envoies, parce que grâce à cela, nous pouvons relier nos liens avec toi. Grâce à la venue de ce Jésus à Noël, nous pouvons retrouver cette relation avec notre Créateur et nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Et nous avons accès à la vie éternelle. Seigneur, merci pour cette grâce. Aide-nous à nous réjouir de cette annonce. Aide-nous à en vivre jour après jour, dans tous les instants de notre vie. Et Seigneur, nous voulons te prier spécialement pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans la peine, pour ceux qui sont dans les soucis, pour ceux pour qui la vie n'est pas très facile ou difficile, pour ceux qui passent par le deuil. Seigneur, nous voudrions te prier que la joie de ta venue soit leur consolation, soit leur force, soit leur chemin. Aide-nous, Seigneur, à être le sel de la terre, à être la lumière du monde, comme tu nous le demandes, pour pouvoir autour de nous avoir cette saveur spéciale, cette saveur de joie que tu nous as donnée, pour pouvoir aussi éclairer de cette lumière venue à Noël, ceux qui nous entourent. Nous te remercions, Père, parce que c'est simplement toi qui peux nous apporter cela. Et nous voulons être reconnaissants pour cela. Amen. J'aimerais partager avec vous les annonces concernant les activités de l'Église cette semaine. Lundi, le Conseil d'Anciens. Mardi, il y a une cellule qui aura une cellule de prière qui était la cellule de Prévecin qui a été déplacée à cause de neige chez Briand et Hélène qui aura lieu mardi soir. Jeudi, réunion de prière ici et dimanche ici notre culte. Pour cette semaine, j'ai rien oublié ? L'activité ? Juste vous donner des nouvelles donc. Philippe en a parlé brièvement, je n'ai pas d'autres nouvelles, mais Roby a fait une chute ce matin, il est blessé, il est parti à l'hôpital, donc on aura des nouvelles, on vous les donnera dès qu'on les aura. On veut penser aussi à Briand, qui est toujours avec des béquilles et qui marche difficilement, et à toutes les personnes âgées aussi qui souffrent, et à toutes les personnes qui sont dans la difficulté ou qui sont seules pendant ce temps de Noël. Pensons-y particulièrement par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, et ouvrons nos cœurs, ouvrons notre joie aussi pour accueillir aussi. J'aimerais, si tu veux mettre le... Voilà, merci. Voilà. J'aimerais, c'est la deuxième fois qu'on vous parle de cette activité, j'aimerais en quelques mots vous donner plus d'explications sur ce qu'on vous a déjà montré il y a 15 jours. On souhaite que vous preniez tous ce samedi 19 janvier à cœur, c'est-à-dire que vous gardiez votre journée pour ce samedi 19 janvier. Ça serait une grosse journée. De 9h30 à 18h30, ici, on vous propose donc tout un travail, une réflexion sur la prière, sur notre prière personnelle, sur notre prière d'église, tout un travail personnel et une réflexion. Ça va se passer en plusieurs temps, donc on aura, comme c'est marqué ici, 3 séances de 2 heures dans la journée. En gros, 10-12, 13, qu'est-ce qu'on a dit, 13-15, et puis 15-30, toutes les fois coupé un petit peu. Ça ne va pas du tout être un enseignement depuis la chair, ça va être un partage, il y aura des travaux pratiques, il y aura des choses différentes, vous allez voir, ça va être très très sympa. On a besoin de s'inscrire. À partir de dimanche prochain, vous aurez l'inscription au fond, on vous enverra aussi un lien où vous pourrez vous inscrire directement. On a besoin de s'inscrire, pourquoi ? Parce qu'on a besoin de commander les cahiers qui vont nous servir de notes à chacun. Alors, c'est tout en bas, là-bas. Il y aura des cahiers, tiens, j'ai pas pensé de l'amener pour le montrer. C'est un très beau cahier sur la prière, vous pouvez garder, il sera super utile après. C'est un cahier de travail, il sera à vous pouvez mettre vos notes dessus. Pour tous ceux qui peuvent le payer, il coûte 15 euros. Pour les jeunes du groupe de jeunes, on a fait 5 euros en pensant qu'ils n'avaient pas beaucoup de revenus. Et puis, pour tous ceux qui ne peuvent pas le payer, eh bien, je pense que l'Église leur offrira. Mais vraiment, c'est important de participer à cette redécouverte ou à ce travail sur la prière. Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Ajouter que il y aura un petit travail personnel à faire avant. Ce n'est pas très long. Une réflexion à faire. On vous donnera un petit fascicule qui fait 3-4 pages à peu près. C'est un petit peu où vous posez vos... Il y a des questions. Comment est-ce que vous vivez la prière? Quand est-ce que vous priez? Qu'est-ce que vous dites? Etc. Puis des questions. Et ça, l'orateur qui va venir ici, Yann Newberry, il les aura. On va lui donner. On ne sait pas encore si ça sera personnel ou pas. Hein. Personnel, je crois. Ce qu'il doit renvoyer après. C'est juste. Hein. Voilà. Alors, oui, c'est ça. Alors, voilà, avec ces genres de choses-là, après la séance, il pourra nous conseiller, il pourra nous aider si on a besoin, il pourra nous répondre, il va prendre du temps pour ça aussi. Donc on vous invite vraiment à réfléchir à ça, à prendre cette journée du 19 à cœur. Il y aura une garderie d'organiser, on va l'organiser, elle va être faite. Donc dans l'inscription aussi, si vous avez besoin qu'on garde vos enfants, vous le mettrez. Si vous pouvez trouver une solution, vous, c'est très bien pour la journée. Mais si vous avez besoin qu'on les garde ici à l'église, on vous le dira aussi. Et puis cette citation toujours de Jean Chrysostome, qui est forte, hein. Vous avez vu ce qui est marqué en haut? Ceux qui prient ont la main sur le gouvernail du monde. Est-ce que vous vous rendez compte de notre responsabilité ici? C'est pas pour nous mettre la pression, mais c'est quelqu'un qui a réfléchi, hein, et ça date de siècles et de siècles en arrière. Hein. Voilà, si vous avez des questions... Par rapport à cette journée de prière, vous venez en parler à un des anciens, on est là avec John aujourd'hui par exemple, mais à Philippe, à Pierre, où vous nous demandez, vous nous téléphonez, il n'y a pas de souci, on pourra partager ça avec vous. C'est tout John pour ça? C'est suffisamment complet? Merci. Autre chose? Autre nouvelle à partager? L'ange leur a dit ce jour-là, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple cette nuit dans la ville de David, est née pour vous. Elle est pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi ceux qu'il aime. Amen.